Donald Trump était en Asie la semaine dernière, une tournée qualifiée, je cite, de grand succès par le président américain himself. Daniel Habert, notre géopolitologue maison, comme Isaac Franco du reste, analyse cela à notre micro, plus précisément au micro de Blaise van der Linden.
Daniel Habert, bonjour.
Bonjour Blaise et bonjour chers amis.
Merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka. Alors Daniel, on ne va pas trahir de secret, vous rentrez d'Asie et bien Donald Trump était en visite, en voyage en Asie la semaine passée. La couverture médiatique en Europe, elle a été assez légère, elle était minimale. Alors on va essayer ensemble de creuser cette visite. Une visite qui conditionne l'état du monde. Quelles ont été les dernières conclusions qu'on a eues sur cette visite?
Alors, vous avez raison de dire que en Asie, cette tournée a été un événement majeur. J'étais en Indonésie, en réalité, qui est un pays, c'est le plus grand pays musulman du monde, et c'est en train de devenir un ami d'Israël. Je le dis en passant, même s'il n'y a pas de relations diplomatiques officielles aujourd'hui. Vous savez, la dernière présentation par le président d'Indonésie à l'Assemblée générale des Nations Unies, c'était « faut faire la paix avec Israël ». Et son dernier mot, ça a été « shalom ». Donc j'étais dans un pays ami et j'ouvrais la télévision et toutes les chaînes internationales ne parlaient que de la tournée de Trump. Alors cette tournée de Trump en Asie, pour les États-Unis, c'est ce qu'il y a de plus stratégique. Et les trois étapes, elles étaient d'un intérêt stratégique différent. Mais l'ensemble a eu un impact très important pour l'Asie, mais je crois pour le monde et aussi pour Israël, et j'essaierai d'expliquer comment. Alors les trois étapes, je les rappelle. La première, c'était Kuala Lumpur, parce qu'il y avait une réunion semestrielle de l'ASEAN. L'ASEAN, c'est tous les pays d'Asie du Sud-Est qui se sont réunis il y a déjà quelques années par peur du communisme. C'était l'époque de la guerre du Vietnam. Bon, depuis, les choses ont tellement bien évolué que le Vietnam a intégré ces pays de l'ASEAN. Et ces pays-là sont devenus, c'est l'Indonésie, c'est les Philippines, c'est la Malaisie, c'est Singapour, c'est la Thaïlande. Vous voyez, tous c'est des pays qui sont tous, au fond, les pays les plus dynamiques sur le plan économique dans le monde. Et sont des pays qui sont stratégiques parce qu'ils sont au cœur de la confrontation entre les États-Unis et la Chine, dans la mesure où économiquement, ils sont dans l'orbite chinoise, où ils reçoivent des investissements chinois massifs et où ils exportent massivement leurs produits en Chine. Mais en même temps, ils ont peur de la Chine, parce que c'est un géant, alors qu'eux sont des pays plus petits, et ils cherchent plutôt la protection américaine. Donc on peut dire que globalement, c'est une région qui est intégrée économiquement au monde chinois, mais qui est sous la protection américaine, pour schématiser. Donc il était là, à cette réunion de l'ASEAN, où il a d'abord réglé un problème. Je verrai plus tard peut-être les résultats, mais juste pour dire ce qu'il a fait ensuite. Il est ensuite allé à Tokyo. Là, il a rencontré, c'est un grand événement, c'est la première fois qu'une femme est Premier ministre au Japon. Et cette femme, c'est un peu, dans la définition de Trump, une sorte de Mélanie, femme de droite, qui est un peu trompiste au fond, et elle s'entend très bien. Et donc, il a renforcé les liens avec ce qui est, pour les Américains, le plus grand allié dans la région face à la Chine, parce que c'est une grande puissance économique, le Japon, une grande puissance scientifique, mais c'est pas une puissance militaire, elle dépend de la protection militaire américaine à 100%. Et puis après, il est allé à Séoul. Pourquoi Séoul? Parce que tous les 6 mois, il y a une réunion de ce qu'on appelle l'APEC. AP, A c'est Asie, P c'est Pacifique. Donc tous les pays qui bordent le Pacifique, alors à gauche c'est la Chine, mais à droite c'est les États-Unis, se retrouvent tous les 6 mois. Ça date d'une quarantaine d'années. C'était un objectif économique, mais comme tous les chefs d'État se rencontrent pour cette réunion, ça donne l'occasion de faire des sommets comme celui de Xi Jinping ou Trump, parce que c'est pas facile à organiser quelque part. Donc là, c'était pré-organisé pratiquement, et parce qu'au fond, c'est devenu le lieu où les chefs d'État se parlent. Donc c'est une organisation, la paix, qui était économique mais qui est devenue politique. Donc il a rencontré Xi Jinping et donc si vous voulez, il a balayé à la fois l'Asie du Sud-Est, l'Asie du Nord développée avec le Japon, et puis il est allé en Corée, qui est un autre allié riche des États-Unis, et là il a rencontré Xi Jinping. Vous voyez, il a fait vraiment en trois étapes, il a tout bloqué. Et alors, avant de peut-être de parler des résultats, si vous m'interrogez, il faut rappeler une chose, c'est que quand Trump est arrivé, il a trouvé, comme tous les présidents américains, trois régions du monde qui sont sous tension, hein. L'Europe, alors là, la tension, elle a éclaté en guerre, hein. C'est un conflit qui dure depuis 3 ans. Il a trouvé la Moyen-Orient à feu et à sang, et il a trouvé une Asie qui était plutôt calme, mais où la question de Taïwan fait toujours couler beaucoup d'encre, avec l'idée que ce sera un jour peut-être l'origine d'une troisième guerre mondiale entre deux superpuissances à cause de Taïwan. Vous voyez, ça c'est les trois. Mais quand on regarde bien, l'importance de ces trois régions n'est pas la même chose que l'urgence d'intervenir dans ces trois régions. Si vous regardez l'importance, l'importance c'est la Chine. La deuxième importance c'est le Moyen-Orient, et la troisième importance c'est l'Europe. Mais du point de vue de l'urgence, pour Trump, c'était exactement l'inverse. Donc, il s'est d'abord intéressé à Poutine en essayant de le séduire. On a vu que ça n'a pas marché. Il s'est ensuite intéressé au Moyen-Orient parce qu'il ne faut jamais oublier qu'au Moyen-Orient, les États-Unis ont deux amis très puissants, très importants, qui sont Israël et l'Arabie Saoudite. Et que dans l'esprit américain, les deux doivent travailler ensemble. Donc, c'est tout l'esprit des futurs accords d'Abraham s'ils sont étendus. Et quant à l'Asie, elle peut attendre parce qu'au fond, on voit bien que la Chine, elle a ses propres problèmes économiques. Il y avait la réunion du Parti communiste, alors ça prend beaucoup de temps. Il fallait redéfinir un peu les objectifs économiques de la Chine. Donc, il n'y a pas d'urgence, mais ça reste important. Vous voyez, donc cette tournée, elle a redonné l'importance à ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire l'Asie.
Ouais. Daniel, vous évoquiez les résultats. Alors, le président américain a qualifié de grand succès son entretien d'à peu près 1 h 40 avec son homologue chinois Xi Jinping. Selon lui, cela a débouché sur des accords concernant le fentanyl et les terres rares. Quels sont les résultats de cette rencontre entre les deux hommes en 3 minutes?
Écoutez, juste avant la rencontre, la tension entre les deux pays était sur le papier au maximal. C'est-à-dire que d'un côté, Trump avait dit, si je n'ai pas d'accord, je vais mettre 100% de droits de douane sur les produits chinois, à quoi Xi Jinping a dit moi aussi. Donc si chacun des deux met 100%, ça veut dire que c'est la guerre froide. C'est-à-dire que c'est un découplage total, c'est un nouveau rideau de fer. Donc c'est pas rien, hein. Et alors, Trump avait ajouté une guerre technologique en interdisant au plus grand fabricant de puces américain, qui s'appelle Nvidia, qui a 5 000 milliards de capitalisation boursière, c'est 5 000 milliards de dollars, donc la plus grande firme du monde, de vendre ses meilleures puces à la Chine. Donc la Chine estime que c'est une agression, c'est presque un casus belli. Et elle a rétorqué en disant, bah, si c'est comme ça, moi, je vends plus de terres rares. Alors, les puces, ça sert à rien, parce que sans terres rares, vous pouvez pas les faire. Et donc, il y avait une tension maximale. Et donc, c'est vrai que c'est un grand succès, parce qu'ils sont sortis en se serrant la main et en disant, bon, bah, alors, on range nos menaces, je mets pas les 100%, je bloque pas les terres rares, je bloque pas non plus Nvidia pour vous livrer les puces. Donc, finalement, c'est un accord, mais c'est un accord commercial, c'est un accord économique. Et quand on regarde bien, c'est exactement les mêmes résultats qu'avait obtenu Biden quand il avait parlé 3 fois juste avant Trump avec Xi Jinping, 2 fois par Zoom et 1 fois justement à une réunion de l'APEC. C'est-à-dire, au fond, bon, on se dispute. Biden avait été loin, il avait accusé la Chine d'être génocidaire avec les Ouïghours, ce qui est aussi stupide que d'accuser Israël d'être génocidaire à Gaza. Donc les Chinois n'aimaient pas ça, mais finalement les résultats ont été exactement ceux que Trump a obtenus. C'est petit un, on va pas se faire la guerre pour Taïwan. Donc c'est pas un sujet, ça n'a pas de sens. Donc on oublie, on évacue. Deuxièmement, on va pas se faire une guerre froide. On peut pas se découpler complètement parce qu'on est tellement interdépendants depuis 40 ans qu'on travaille ensemble que si on se séparait, les deux économies s'écrouleraient et le monde avec. Donc, bon, le principe de réalité fait que donc on ne fait pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on essaie de trouver un intermédiaire où, au fond, l'idée, c'est se rendre mutuellement moins interdépendants que dans le passé. Il y a eu une époque qui s'appelait la globalisation, où vraiment tout le monde était interdépendant, chacun se vendait des choses très importantes. Aujourd'hui, on estime que c'est dangereux de dépendre d'un pays, de dépendre des terres rares, de dépendre des puces, et donc, etc. Et donc, le temps que chacun puisse faire de lui-même, trouve des alternatives, faut trouver un modus vivendi, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, finalement, Trump a obtenu un accord dont il peut se vanter, mais qui a été obtenu grâce à la résistance pugnace de Xi Jinping, et il a obtenu la même chose que Biden. Donc, on peut pas dire que c'est un immense succès, mais il peut quand même dire que, un, avec le Japon, il a renforcé ses liens, et les Japonais sont prêts à dépenser beaucoup plus d'argent dans leur défense, un peu comme l'Allemagne aujourd'hui. Et les deux pays qui étaient les ennemis de l'Occident, qui ont été vaincus après la Deuxième Guerre mondiale, se sont refait une santé, mais ont oublié de développer leur défense. On leur a d'ailleurs, parce qu'on leur interdisait. Et aujourd'hui, ils ont le même problème tous les deux. Ils ont plus les moteurs de la croissance qui était l'automobile. C'est perdu. C'est perdu par l'automobile chinoise et pour pas mal d'autres raisons. Et donc, ils cherchent des relais de croissance, et c'est les industries d'armement. On va le voir en Allemagne et on va le voir au Japon. Donc, si vous voulez, Trump a obtenu que les Japonais dépensent beaucoup d'argent pour leur défense. Et en Asie du Sud-Est, il a obtenu que l'Asie du Sud-Est reste un grand partenaire de l'Occident. Donc, il peut dire qu'il a remporté c'était une bonne tournée pour lui. Voilà, voilà ce qu'on peut dire.
Merci beaucoup Daniel Abert d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka pour éclaircir ce voyage de Donald Trump en Asie. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles conversations.
À la semaine prochaine, au revoir.